Nous ne manquons pas au rendez-vous, par la grâce de Dieu, nous y sommes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous sommes au mercredi 5 juin 2024. Il sont 11h passées de quelques instants sur votre radio. Vous comprenez sans doute que c'est le début déjà de l'émission Club de la Presse sur votre radio. Nous sommes au troisième numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. La coordination de l'émission de ce jour est assurée par, bien sûr, enfin, la mise en onde est assurée par Michel Victor Betomega et la mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, bien sûr. Alors, confrères journalistes, nous sommes au mercredi. Fabrice Patom-Pétizi est là. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour aux confrères ici présents et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien.
Dieu merci. Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs autrices du canal FM qui nous suivent sur moi.
Voilà. Tu vas bien? Hein? C'est toujours commandant?
C'est toujours commandant.
Ou bien?
Ouais.
Alors, Gadiel Tonadi aussi est là. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent.
J'espère que tu vas bien.
Ça va.
Dieu merci. C'est l'essentiel. Remercions toujours le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alors, je parlais des invités. Nous sommes avec la maison de justice à l'ordre de Bagida. Il y a Monsieur Aïka Foli Kofi qui est avec nous. Monsieur Aïka, bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal.
Voilà, vous êtes le médiateur de la maison de justice de Bagida. Nous sommes là pour discuter de cette maison, de ce du fonctionnement de cette maison de justice et aussi comment arriver à céder à cette maison. Je veux bien parler alors de nos concitoyens, comment ils peuvent saisir cette maison et également tout ce qui doit être alors des dispositions à prendre. Pardon, nous allons en parler. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné alors de Mme Toya Blavi. Madame, bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal et bonjour à tous.
Vous êtes assistante juridique à la maison alors de justice de Bagida. Alors Monsieur Aïka, quand on parle alors de maison de justice, qu'est-ce que c'est?
Maison de justice, c'est une mini justice qui ne rend pas des décisions à l'instar des tribunaux. Donc notre mission, c'est de procéder à la médiation et à la conciliation. Lorsque nous sommes saisis.
D'accord. Alors, nous allons nous intéresser à ce nouveau mécanisme de délivrance, surtout alors du casier judiciaire, et puisque c'est de ça qu'il s'agira même d'ailleurs dans cette émission. Alors, pour vous, c'est quoi le casier judiciaire?
Bon, le casier judiciaire, c'est un relevé national et automatisé des condamnations pénales prononcées par la juridiction contre les individus.
Et quelles sont les différentes sortes alors de casiers judiciaires dont nous disposons?
Donc si nous nous transportons au milieu judiciaire, on l'appelle communément bulletin du casier judiciaire. Donc il y a trois catégories de bulletins du casier judiciaire. Il y a le bulletin 1, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc je m'explique. Le bulletin numéro 1 est un relevé intégral du casier judiciaire. Donc le bulletin numéro 2, c'est un relevé partiel du casier judiciaire. Et le bulletin numéro 3, c'est un relevé, on dit, expurgé, c'est-à-dire abrégé du casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire numéro 1 porte tous les renseignements concernant le condamné. Donc, pour délivrer le casier judiciaire numéro 2, bien numéro 3, on se réfère au bulletin numéro 1. Donc, le bulletin numéro 1 est éclaté en deux volets. Donc, le bulletin numéro 1 porte tout tous les renseignements concernant l'état civil, les renseignements concernant la filiation, tout l'infraction, et puis le lieu de l'infraction, etc.
Ok. Alors, voilà, vous voulez continuer, bien sûr.
Oui. Le second volet du bulletin numéro 1, on l'appelle duplicata électoral. Donc, quand l'individu est condamné à une peine d'emprisonnement et que la peine d'emprisonnement est assortie d'incapacité électorale, donc on établit au moment de l'établissement du bulletin numéro 1, donc on établit aussi le casier électoral qui comporte les mêmes renseignements que le bulletin numéro 1. Alors comment ils sont diffusés? Par exemple, M. Koumondi Paul est né à Davier.
C'est l'exemple que vous donnez?
Oui, un exemple, est né à Davier. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Ngouatien, par exemple. Donc, lorsque le greffe du tribunal de Ngouatien sera en train d'établir les pièces d'exécution, c'est le B1 qui est le résultat de l'établissement des pièces d'exécution. Comme le monsieur est né à Davier, après l'établissement du bulletin numéro 1, s'est transféré à Séville pour être classé au fichier K du tribunal de Séville. Comme ça, lorsqu'il va se présenter pour demander le B3 pour un dossier, après l'établissement, on se réfère au fichier K pour voir si son bulletin numéro 1 est classé là-bas. Et ça démontre la condamnation. S'il a été condamné, donc on reporte la condamnation sur son B3. S'il n'a pas été condamné, on trace transversalement sur l'imprimé bulletin numéro 3. Cela signifie qu'il n'a jamais été condamné.
D'accord. Ok. Et quel document consulte-t-on avant de délivrer les bulletins numéro 2 et numéro 3 du casier judiciaire?
Il faut consulter le bulletin numéro 1.
Voilà.
Parce que ça porte tous les renseignements sur les condamnés.
D'accord. Ok. Madame Toyi, alors de quelle manière se délivrait le casier judiciaire?
Ok, merci. En fait, auparavant, pour se faire délivrer le casier judiciaire, il faut obligatoirement retourner à la préfecture de naissance, c'est-à-dire au lieu de naissance, pour se le faire délivrer. C'est ce qui se faisait auparavant.
Et finalement, quelles sont les difficultés auxquelles les postulants alors au casier judiciaire étaient confrontés?
Effectivement, c'était vraiment des difficultés parce que tu es peut-être à Lomé et tu es né à Dapaon. Tu es obligé de te transporter à Dapaon pour te le faire délivrer. Et on pourrait peut-être te dire d'attendre 2 jours. Avant de recevoir ça. Et parfois, tu es obligé peut-être d'envoyer quelqu'un pour te le faire. C'était ça, même les difficultés. Tu es ici, mais obligatoirement, il faut que tu te déplaces pour te le faire délivrer.
Mais maintenant, je pense que ça se fait en ligne, c'est ça?
Oui, effectivement. Maintenant, il y a un site où il faut se le faire, par lequel on peut se le faire délivrer. Où que tu sois, si tu es par exemple à Takbamé et que tu es à Lomé, tu vas juste seulement sur le site et c'est le www.casierjudiciaire.gouv.tg et tu vas sur le site et il y a toutes les informations, tu remplis et puis on te fait parvenir ça par la poste. Oui, c'est à toi de dire, tu vas prendre ça par la poste ou si peut-être quelqu'un là-bas peut te le retirer. Donc on te l'envoie directement. C'est ce qui se fait maintenant.
Donc, c'est en quelque sorte les innovations.
Oui, c'est les innovations et ce qui allège la tâche au postulant maintenant. Tu n'as même plus à te gêner pour faire le déplacement. Allez.
Des fois, il y a des gens quand même qui consultent soit le site et disent que non, ils ont des difficultés à renseigner même d'ailleurs les informations qui sont sur le site. Comment est-ce que vous arrivez toujours à avoir aussi ces difficultés que ces postulants ont?
Oui, en fait, il y a un numéro au cas où vous avez du mal à accéder au site ou bien qu'il y a des complications. Il y a un numéro, c'est le 70 80 27 27 que vous pouvez contacter pour plus de détails. Là, on pourra vous dire ce qu'il faut faire. Sinon, généralement, quand les gens le font, ça passe. Il n'y a pas de difficulté.
Monsieur Ika, quelles sont les pièces dont le postulant doit disposer déjà pour postuler même d'ailleurs ou avoir un casier judiciaire? Quelles sont les pièces dont il doit disposer?
Bon, pour un Togolais né au Togo, il présente son acte de naissance ou bien une photocopie légalisée de son acte de naissance. Mais quant à un Togolais né à l'étranger, il présente son certificat de nationalité togolaise, mais il adresse la demande à la cour d'appel.
La demande est adressée à la cour d'appel.
À la cour d'appel.
D'accord. Alors, c'est vrai, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que nous sommes en train de mener, bien sûr, par rapport au casier judiciaire. Et vous nous avez donné des informations concernant justement le casier judiciaire et tout ce que nous devons faire pour postuler ou pour avoir notre casier judiciaire. Et donc, finalement, la durée, c'est pour combien de temps?
Oui, en fait, généralement, on vous donne 24 heures ou plus 48 heures pour avoir ça.
Pour avoir cela.
Oui, donc c'est quand il y a de l'affluence, peut-être que ça va jusqu'à 48 heures. Sinon, généralement, c'est 24 heures.
Mmh. Et des fois, il y a des gens aussi qui posent la question de savoir, mais comment se fait-il que la durée ou le moment du casier judiciaire est qu'à 3 mois seulement, ou bien on ne peut pas aller jusqu'à 6 mois? Monsieur Ika.
Oui, 6 mois arrangerait bon nombre. Mais on ne sait pas pourquoi le législateur a posé cette condition de 3 mois. Il faut renouveler.
C'est le législateur qui l'a fait ainsi.
Oui.
Et en fait, moi je pourrais dire si au cours des 3 mois, la personne arrivait à être condamnée pour une quelconque infraction qu'elle a commise. Là, il va falloir revoir le casier judiciaire.
Tout
peut-être qu'auparavant, le casier était vierge. Et il s'est fait que durant la période, elle a été condamnée pour une quelconque infraction. Donc là, on va revoir le casier.
Il y a un problème là-bas.
D'accord, c'est quoi le problème?
Il y a un problème.
C'est quoi le problème?
Vous voyez que pour qu'on délivre un bulletin numéro 1, il y a des conditions. Lesquelles? Il faut que le jugement de condamnation soit définitif et enregistré. Bon, il faut un temps. Si dans l'espace de 3 mois, on n'a pas pu établir les pièces d'exécution pour dresser le bulletin numéro 1, il peut se présenter, mais on va lui délivrer un casier vierge, bien qu'il soit condamné.
D'accord, je vois. Alors, pour le coût, le coût du casier judiciaire, c'est combien, Madame Toyi?
En fait, c'est à 500 francs, mais lorsque ça se fait en ligne, il y a d'autres contraintes parce que là-bas, très souvent, les gens se présentent dans les cyber pour se le faire délivrer. Là, à part les 500 francs que tu payes, il faudrait que tu payes 1000 francs souvent que ceux du cyber demandent pour le service rendu. Mais après, maintenant, pour qu'on te le fasse parvenir, tu dois payer les frais de la poste aussi.
Et c'est tout comme le frais de transport.
Oui, effectivement. C'est ça. Sinon, le casier même se délivre à 500 francs.
D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Monsieur Aïka, si vous avez un mot pour à l'endroit surtout alors des populations.
Oui, nous sommes rentrés en activité, la maison de justice sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes rentrés en activité il y a 6 ans. Et nous dressons à chaque semestre des rapports d'activité. C'est ça qui a incité les décideurs à multiplier la création des maisons de justice dans les autres préfectures du pays. Donc, nous invitons nos concitoyens à prendre la tâche avec les maisons de justice pour plus de renseignements concernant les diverses pièces à délivrer parce que il y a certains qui se présentent à nous pour demander si on délivre le certificat de nationalité ici, si on fait le casier judiciaire ici, l'acte de naissance ici, les rectifications ici.
Justement, c'est cette question-là que je voudrais vraiment poser. C'est quoi le lien entre la maison de justice et aussi le casier judiciaire?
Non, nous, pour le moment, ça ne relève pas de notre compétence parce que nous avons une compétence limitée.
D'accord. Madame Toyi,
nous sommes à la fin. Il n'y a pas de lien comme ça. En fait, c'est juste pour informer
la population
sur
justement
ce que c'est que ça. Voilà. C'est ça aussi une de nos missions, renseigner la population, les sensibiliser. En fait, pour mon mot de fin, j'aimerais seulement convier la population à se référer à nous en cas de besoin. Et nous sommes là pour les aider dans la mesure de nos moyens, pour les médiations et pour toute information dont elle aura besoin.
Et s'ils veulent vous contacter?
Effectivement, nous sommes joignables au 91 97 77 18.
Merci beaucoup, Madame Toyi Ablavi, d'être passée dans cette émission.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes assistante juridique à la Maison de justice de Baguida. Et merci à vous, Monsieur Aïka Foli Kofi. Merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le médiateur de la Maison de justice de Bagida. Merci d'être passé dans cette émission. Retour dans cette émission Club de la Presse et nous sommes rejoints par Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va, on tient le coup pour
l'instant. C'est l'essentiel. Ouais. Toujours comme un poisson dans l'eau, c'est ça?
Oui, oui, maintenant ça évolue un peu, mais bon, on verra la suite.
D'accord. Estelle Koudzounou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Voilà, j'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord. Alors, nous sommes au mercredi et nous savons que déjà nous débutons l'émission de mercredi avec la santé. Et santé, éducation, c'est bien quand même nous donner des sujets de santé à travers tous ces écrits. Et donc, à la une alors du journal ce matin, Gazette, on a dit, c'est vrai, vous parlez alors de quatre secrets pour la santé, la longévité. On en a besoin de ces secrets alors pour évoluer dans la vie, c'est ça?
Absolument, vous savez Pascal, aujourd'hui il faut avoir les yeux sur toute la notion de santé dans son ampleur et il y a forcément des clés, il y a forcément des secrets pour garder sa santé et surtout grandir en bonne santé, comme on l'appelle, vieillir en bonne santé et vivre longtemps sur la terre. C'est un défi dans nos communautés, surtout en Afrique, où actuellement, c'est vrai qu'il y a une évolution au niveau de l'espérance de vie. Au Togo, on parle de l'espérance de vie se situe entre 63 et 65 ans. Les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. Mais dans d'autres pays, les pays développés, on va jusqu'à 80 ans au-delà. Et c'est des indicateurs qui prouvent qu'il y a un problème de santé dans nos pays. Dans nos pays, on dit que la plupart des décès peuvent être évités. C'est ça le drame. La plupart des décès dans nos pays peuvent être évités. Nous mourons pour des causes évitables. Et c'est toujours le défi qui se pose au niveau des systèmes de santé. Et nous-mêmes, la population, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'informer. Et l'OMS dit l'information déjà réduit la vulnérabilité au niveau individuel de plus de 40%. Donc, quand on a l'information, on peut agir sur sa santé, ce qui est vraiment important. Alors, dans cet article, il y a quatre secrets. Ce ne sont pas des secrets mystérieux. Il y a quatre secrets. Mais j'aimerais juste aborder un secret. Ça peut faire tollé, mais c'est assez important. C'est les rapports sexuels dans le couple.
Alors, comment ça? Les rapports sexuels dans les couples?
Dans les couples.
Oui.
Plusieurs études prouvent qu'aujourd'hui, les couples composés, hein, les couples légaux, les rapports sexuels ne sont pas ceux-là. Et la question a été posée à plusieurs couples et plusieurs ont reconnu que c'est vrai au début, ça marche, mais quelques semaines, je veux dire quelques mois, quelques années après, il y a toute une réduction et des couples ont témoigné faire des rapports sexuels une fois chaque deux mois, ce qui n'est pas un avantage assez sérieux pour leur santé. Donc, c'est des réalités qui comptent dans le couple légal. Les rapports sexuels constituent un élément assez central pour la santé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs autres réalités dans cet article très important pour la santé de ton chacun et surtout la longévité.
Et surtout la longévité. Donc, alors, message aux couples, hein, et qu'ils doivent même renforcer surtout les rapports sexuels, surtout dans les couples, pour que, du moins,
qu'il y ait aussi. Quelle est la fréquence, quelle est la fréquence normale?
Non, mais je ne sais pas si.
Une fois, tous les deux mois, quelle est la fréquence normale?
Je ne sais pas si Gadiel est sexologue pour nous répondre à cette question.
Il y a des chiffres qui sont avancés, hein. On dit, par exemple, le minimum, c'est 12 rapports au moins dans le mois. 12 rapports, c'est sûr, dans le mois. C'est le minimum qu'un couple légalement constitue. C'est-à-dire un homme et une femme qui vivent et qui dorment sur le même lit. Le minimum, c'est 12. Hein, 12 rapports, c'est sûr, dans le mois.
Dans le mois. Est-ce que ça t'étonne?
Ouais, ça choque.
Ok, Gazelle, c'est vrai que vous vous intéressez à un autre article. Hein, vous parlez alors de 10 conseils pour manger moins de sucre.
Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, le sucre tue. Hein, on doit continuer pas avancer ce message-là. Le sucre, c'est un tueur silencieux dans nos sociétés aujourd'hui, parce que la plupart de ce que nous consommons comprend du sucre. Et il y a ce qui est le piège actuellement dans nos sociétés, c'est qu'il y a des aliments, quand vous les prenez, vous n'avez aucun goût de sucre, mais c'est super sucré. Et c'est ça le drame aussi. On s'avance sur ces genres de produits, on ne sait jamais que c'est bourré de sucre. Puisque la plupart du temps en Afrique, nous allons au supermarché, nous achetons les choses pour leur beauté d'image, mais peu sont ceux-là qui lisent les inscriptions qui sont faites sur les emballages. Il y a des maisons qui sont assez sérieuses quand même, qui informent sur le taux de sucre, et c'est là le réflexe qu'on doit avoir. Quand chez nous, le matin, nous prenons le thé traditionnel, on aime donner cet exemple-là. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table a pris le thé matinal, Milo sucré, super sucré d'ailleurs, et puis du lait. Beaucoup de lait non sucré sont sucrés, les gens ne le savent pas aussi. Et puis il y a le lait concentré sucré que les gens aiment, ils mettent dans le thé. Et puis on met aussi du sucre et accompagné du pain. Donc tout cela fait une dose surélevée par jour. Or, l'OMS dit, pour un adulte comme vous et moi, c'est 6 cuillerées à café de sucre par jour. Donc, vous connaissez la cuillerée de café? Est-ce que vous la connaissez, Pascal?
Oui, je le sais.
Voilà, 6 cuillerées au maximum par jour. C'est ça la mesure. Et vous voyez, quand vous prenez juste un petit, peut-être que vous avez déjà consommé un mois du niveau de sucre, en tout cas pour vous. Et ça continue au jour le jour. C'est ça le drame. Le surpoids, l'obésité, le diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Alors là-bas, dans cet article, il y a des experts qui se prononcent, qui donnent des conseils à des gens, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont accros au sucre. Ils doivent prendre leur dose. Hein. C'est comme des gens qui se droguent. S'ils ne prennent pas leur dose de sucre par jour, ils ont des problèmes. Ils ne se sentent pas bien. Donc, on donne des conseils dans cet article, au moins 10 pistes à ceux-là qui sont accros, de comment commencer par réduire la consommation de sucre. Je le répète, aujourd'hui, le sucre, c'est un piège dans plusieurs aliments sur le marché.
Donc, c'est un piège dans plusieurs aliments sur le marché. Vous nous interpellez aussi sur un geste banal que nous faisons sur nos routes en étant dans nos engins. Et vous parlez alors de cracher en public et vous dites que c'est un geste désagréable et dangereux.
Désagréable parce que vous voyez, Pascal, si nous sommes ensemble et puis je crache ici, personne ne va m'applaudir. On est d'accord. Voilà. Et puis, le crachat peut gorger de microbes, de virus et autres. En tout cas, des choses qui peuvent contaminer d'autres personnes. Non, c'est un article vraiment pas vraiment attirant, mais j'invite nous tous à lire cet article quand on crache dans le public, ce que cela comporte comme conséquence sur la santé de la population, c'est assez important.
Et je l'évoquais, il y a également ce mauvais geste que nous faisons. Des fois, on est sur nos motos et tout, et on crache déjà sur nos motos. Ce n'est pas aussi bien
nous
ça.
Nous crachons partout, chez nous, au Togo, en Afrique. L'Africain, c'est un vrai cracheur, il crache partout. Vous voyez des fois, même dans les édifices publics, vous allez voir des traces de crachats. Voilà, on est spécialiste en cela. C'est très dangereux pour la santé.
C'est très dangereux pour la santé. Alors, Gadiel, ce sont des articles que nous pouvons facilement retrouver dans votre journal paru aujourd'hui, journal Santé Éducation, bien sûr. Et c'est à quel prix? Et aussi, si nous voudrons avoir ce journal en PDF et en papier, quelles sont les mesures ou les dispositions à prendre?
Pour avoir le PDF, le journal numérique, c'est à télécharger sur notre site internet www.santé-education.tg. C'est juste à 500 francs. Et puis le journal papier, c'est à 1000 francs dans les kiosques et en pharmacie.
Gazelle, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission et de parler surtout de santé. Alors, sans transition, santé, nous parlons des inondations. Alors, le Manya Libéré, Abbas, vous écrivez à la une alors de votre journal, alors ce matin, risque d'inondation le mois de juin ou le cœur de la saison pluvieuse dans le sud. Et vous nous interpellez sur la situation alors d'inondation qui a lieu aujourd'hui, et ce n'est pas encore fini, hein, cette question alors d'inondation, puisque la saison pluvieuse continue.
Oui, mais les inondations, la saison pluvieuse elle-même ne vient que de commencer, parce que c'est le mois de juin, comme l'a dit le directeur de l'ANAMET, Agence Nationale de la Météo, que c'est le cœur même de la pluviométrie, et de faire attention, parce que ces inondations, ce qu'on a vu auparavant, peut-être que ce n'est pas encore catastrophique. Donc, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il a appelé les gens à être beaucoup prudents, surtout dans les zones qu'on appelle les zones inondables, les zones vulnérables, à prendre des dispositions par rapport à la météo, très souvent qu'on nous annonce sur la pluviométrie. Donc, c'est un rappel et une alerte qu'il lance en faveur à l'endroit des populations qui sont dans des zones inondables. Parce que quand vous prenez la situation géographique de la capitale, c'est que elle est située dans une plaine selon les géographes et constituée de petits bassins dans certaines zones. Et à la moindre pluie, ces bassins lanceront plus d'eau et ça inonde. Et ça aussi, il faut ajouter aussi le comportement de nous-mêmes, où on arrive à boucher les caniveaux, où on transforme les bassins de rétention en dépotoirs, ça fait que tout devient plus compliqué. Donc, il appelle tout le monde à être beaucoup plus prudent dans cette situation. Et le numéro sur lequel, si vous êtes en danger ou si vous êtes inondé, le numéro d'urgence qu'il faut appeler pour que l'Agence nationale de la protection civile, l'ANPC, arrive, il faut vite appeler le 170 et nous l'avons donné là-bas. Je pense que c'est une bonne alerte parce que nous sommes entrés, c'est de plein pied, juin est le mois le plus arrosé dans la zone sud du pays. Donc, de faire attention, c'est des alertes qu'il lance.
Justement, des alertes, Fabrice, mais je pense quand même qu'il y a la responsabilité des citoyens, ou du moins de la population, et aussi la responsabilité du gouvernement.
Oui, d'abord, c'est un phénomène naturel. Et généralement, quand vous observez un peu l'Afrique occidentale humide et côtière, surtout la partie sud, quand vous prenez ce corridor-là, Lomé, Abidjan, c'est encore même pire, généralement.
Il semble que Lomé est moins arrosé.
Oui, donc généralement, quand vous prenez ces parties-là, vous allez vous rendre compte que surtout au cours du mois de juin, juillet, août, les trois mois-là, et on fait face très souvent à de graves inondations qui même emportent des vies humaines. C'est pour cela qu'il faut saluer l'initiative de l'ANPC qui attire l'attention des uns et des autres sur ce qu'il faut faire. Effectivement, il y a des questions à se poser sur les raisons de cette situation. C'est d'abord naturel, la pluie, elle est naturelle. Et aujourd'hui, il faut aussi dire qu'au fur et à mesure que la population devient dense, vous savez, aujourd'hui, pour acheter un terrain, on va vous expliquer la couleur des herbes, on va vous dire cette zone peut être inondable. Il y a des zones qui n'étaient pas réputées inondables au départ, qui aujourd'hui, après une pluie, se retrouvent dans l'eau. Cela voudrait dire que il faut aussi tenir compte de la masse de la population qui continue par s'accroître. et également à revoir les plans, le plan d'assainissement de nos quartiers, les constructions et autres. Vous voyez, il y a des quartiers où c'est parce qu'on a tracé, les riverains vont vous dire, nous n'avions pas ce problème par le passé. C'est avec les travaux de la route, nous nous sommes retrouvés dans des situations pareilles. Donc, il y a plusieurs raisons, mais je crois que la raison qui revient le plus, elle est humaine, hein. Un peu le manque de civisme des populations. Et que quand vous voyez un peu le trop plein d'eau, vous voyez un peu la quantité des sachets plastiques, des ordures qui apparaissent à la surface de l'eau. Et quand l'eau tarit, il faut carrément rebalayer toute la ville parce qu'elle devient complètement sale. Et donc, la raison est humaine. Maintenant, à un moment donné, peut-être la responsabilité du gouvernement dans ça, comme on le dit, c'est cette fermeté. Mais au même moment, quand l'État décide aussi d'être ferme, parfois c'est mal vu. Parfois par nous, les journalistes, même les politiques s'en saisissent également. Effectivement, il y a des zones où il ne faut pas construire. Et l'État n'a pas organisé les choses de telle sorte que aujourd'hui la question du permis de construire soit une réalité. Nous avons aujourd'hui les mairies qui sont là dans presque tous les quartiers qui doivent être exigeants là-dessus. Mais c'est des habitudes qu'on n'avait pas. Et lorsque on en arrive à des situations où il faut vraiment faire face à cela, et même quand on demande ces permis de construire, j'ai l'impression, parce que j'ai vu certaines mairies s'exercer à ça, mais en réalité, elles ne s'occupent pas vraiment. Est-ce que si on construit tel ou tel ici, elle, je crois qu'elle est plus intéressée par la taxe que vous allez payer. Maintenant, quel est le travail de spécialiste qui est fait sur l'immeuble qui doit être construit? Ça ne les regarde pas. Le permis de construire, on vous le donne. C'est comme, moi j'ai déjà le permis, je peux en parler. C'est comme pour le permis de conduire. On dit acuité visuelle. Vous allez, tout est déjà signé. C'est l'argent que vous donnez qui intéresse. Moi, on ne vous fait jamais une analyse pour voir si vraiment vous voyez bien. Je le dis parce que j'ai déjà le permis. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, peut-être si l'État prend des dispositions pour que ce soit plus rigoureux. C'est un peu cela l'administration, c'est-à-dire on s'intéresse plus à l'argent qu'on prend. Alors qu'en réalité, ces exigences-là sont mises pour faire des études, pour voir, alors si tu veux construire un immeuble à 3 étages, est-ce que dans cette zone c'est possible? Est-ce que sur le plan géologique ça peut aller? Ceci ou cela, quelles conséquences?
C'est pour protéger la population.
C'est pour protéger la population. Est-ce que la canalisation des eaux s'est respectée et tout cela? C'est pour cela l'État a pensé mettre ces exigences-là. Mais on a constaté que très souvent, c'est plus l'argent qui intéresse. Il suffit de payer, on vous délivre. Peut-être même sans même aller savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Et quand vous ne payez pas, on vient vous dire d'arrêter les travaux. Et vous payez, vous continuez les travaux. Bon, voilà un peu là où parfois l'État, à travers ses démembrements, doit se montrer ferme. Mais comme je le dis, parfois, quand on se montre ferme, nous ne sommes pas contents. Mais il faut y aller, on finira un jour par comprendre.
D'accord. Est-ce que vous comprenez peut-être, tel que Fabrice l'a décrit tout de suite, cette non-fermeté de l'État aussi sur ces questions-là?
Oui et non. Vous savez, quand la vie des populations est en danger, je crois que l'État ne va pas réfléchir par deux fois pour le faire, hein. On va le traiter de tous les noms, mais c'est pour la bonne cause. Puisque je me rappelle bien, ça fait plusieurs années, à chaque fois que la saison pluvieuse commence, on revient sur le même débat, inondation. Les choses ne semblent pas bouger. Oui, les responsabilités sont partagées, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus les populations. Il y a des gens qui se lèvent volontairement pour aller acheter des terrains dans des zones déjà inondables. On te dira, je n'ai pas assez de ressources financières pour m'acheter le terrain dans un endroit un peu plus indiqué. Mais c'est ignorer en fait toutes les conséquences et les corollaires qui peuvent découler de cette action-là. Donc, s'appesantissant sur tous les dégâts qui ne cessent de causer des ennuis aux populations, je crois que l'État doit être ferme. D'abord, dégager le plan d'assainissement de Lomé au moins, puisque la ville continue pas à grandir. Alors aujourd'hui, les périphéries sont presque déjà occupées et tout. Et être ferme. Fabrice a évoqué tout à l'heure le permis de construire. Cette histoire de permis de construire, vraiment, c'est un peu, parfois ça fait un peu sourire, puisque comme il a décrit, on a comme l'impression que les mairies s'appesantissent uniquement sur l'argent. Je crois qu'ils facturent le mètre carré à 100 francs, donc du coup, quand ils multiplient, ils ont juste leurs gains et puis le reste, ça ne regarde pas trop. Quand ils viennent écrire, ne doit pas continuer les travaux. Quand ils reviennent, c'est pour percevoir les sous et puis donner le OK. Or, les conséquences sont vraiment gravissimes pour les populations et je crois que l'État ne doit plus ne doit pas penser au candidat-on pour le taxer de quoi que ce soit. Il faut agir avec fermeté. Il y va de l'intérêt des populations. Il va également de l'intérêt de cet État-là également.
Sylvie, est-ce que pour notre bien, il est très important quand même que l'État soit ferme sur un certain nombre alors de décisions?
Oui, j'ai souvent donc une formule ou un slogan, je dis, en matière donc de gestion d'un État, il n'y a pas de place au sentimentalisme. Je l'ai souvent dit, vous savez, quand il faut être ferme, je crois que il faut l'être avec toute la force donc du terme ou des termes. Oui, il y a certaines qui se... Bon, c'est pas s'il faut dire un plaisir, mais qui se plaignent quand même ce plaisir-là d'aller construire donc dans les zones inondables. Quoique, je fais remarquer aussi qu'on peut construire dans des zones inondables. Mais ce n'est pas quand même... Le commun des mortels.
Il
faut avoir les moyens, parce que lorsque vous prenez Bécasse et Distribution, pour ceux qui connaissent la zone, c'est presque une zone inondable.
Tout à fait.
Mais ils ont quand même construit aujourd'hui, c'est un service, et tout le monde visite. Même ils vont acheter. Nous, on avait fait quelques tours donc, lors de l'inauguration. Mais si on te dit, ou 5 années plus tôt, si on te dit donc, de circuler là, tu ne pouvais même pas. Donc il faut avoir les moyens. Il faut étudier donc le sol avec des esphères et tout ça avant donc de savoir quoi installer sur le lieu. Mais bon, si pour moi par exemple, si j'achète un terrain dans une zone inondable, vous verrez que aux premières pluies, je serai inondé. Ça c'est normal. Donc il faut savoir quoi construire dans les zones inondables. Donc c'est pourquoi il faudrait que l'État puisse prendre quand même ses responsabilités. S'il le faut, s'il faut avoir donc un fichier. Donc des zones inondables, ne serait-ce que, bon, on peut prendre Lomé comme un projet pilote, donc recenser donc les zones inondables, encore que vous savez ce qui ma foi dérange un peu ou qui ne permet pas la réalisation également donc de ces projets au niveau de l'État, il faut des moyens, parce que pour déloger les gens il faut quand même les dédommager. Vous pouvez pas quand même, parce que certains sont déjà installés, pour leur demander de partir, on peut pas dire bon les gars quittez le lieu. Bon, ils vont.
Comme des dommages, s'ils sont légalement installés, hein. Si tu vas t'installer dans une zone qui n'est pas indiquée, ça n'engage pas l'État.
Oui, mais
tu l'as acheté quand même.
Oui, mais tu l'as acheté. Tu as construit. Mais l'État, qui a également ce rôle donc de protection, de garant donc de l'intégrité physique et tout ça des Togolais, ce n'est pas parce que vous avez construit dans une zone inondable, tout est fait, les enfants habitent là, la femme et tout ça. Et un beau matin, l'État dit, bon, les gars, dégagez parce que c'est une zone inondable. Il faudrait quand même que l'État puisse trouver un logis pour vous accueillir. Mais ça aussi, il faut des moyens, il faut des dommages et tout.
Oui, peut-être là où on a vu très souvent l'État. Bon, on peut estimer qu'à une certaine époque, on n'a pas agi.
Ouais.
Mais aujourd'hui, l'OMS s'agrandit à une vitesse vertigineuse.
Et on risque
d'avoir
les
mêmes problèmes plus tard. C'est un peu cela. Donc, ouais. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, il faut s'être ferme. Il vaut mieux être méchant très tôt et plus tard éviter certains problèmes. Et quand vous suivez l'actualité, vous voyez un peu ce qui se passe à Abidjan. Ils ont fini de gagner leur CAN, tout le monde a dansé, mais après la CAN, c'est la débandade un peu partout. Et c'est... Ouais, ben les gens, mais bon, au bout de quelques années, les gens comprendront qu'il fallait ça.
Et sinon, peut-être que c'est les mêmes populations qui vont applaudir.
Oui, c'est un peu ça. Quand les décisions sont prises à l'instant T, on pense qu'on fait du mal aux populations. Mais l'État a le monopole de la violence légitime, surtout quand il va. Il s'agit de l'intérêt des populations. Donc, il faut être ferme maintenant. Les populations continuent par occuper l'espace, l'OMS se développe, et dans les années à venir, ce serait pire. Donc, il
même quand tout à l'heure, Abbas parlait du numéro où la NPC va venir. Il y a des zones où ils vont venir comment ? À pied ? Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire la voie d'accès. Il y a des quartiers où pour accéder, il y a des parents, on ne les rend pas visite, surtout quand tu arrives, ou bien tu gares loin. Donc quand on vient te sauver, tu es en détresse.
Même les sapeurs pompiers, il y a des jours où les sapeurs pompiers ne peuvent même pas.
Surtout qu'on n'a pas des hélicoptères.
Oui,
il y en a.
Il y a des hélicoptères. Les bâtisses qu'on pose, qui font problème. On ne prend pas le soin, on l'a dit tantôt, de voir qu'est-ce qu'on construit, où on veut construire, et où est-ce qu'on achète, et qu'est-ce qu'on achète. Il y a certains qui prennent le malin plaisir de s'acheter des terrains en saison sèche, et c'est après qu'ils vont aller construire, et dire que, bon, moi j'ai une maison.
C'est après qu'ils se rendent
compte. Après qu'ils se rendent compte que j'ai fait ça par rapport au permis de construire, là, qu'il faut le voir. Parce que c'est là la fermeté de l'État. L'État a dévolu le pouvoir aux communes aujourd'hui pour décentraliser la situation. Et ces communes-là doivent le payer parce que l'ANPC travaille également avec les communes maintenant. L'ANSAP, travaille avec les communes. Ce qui veut dire qu'il doit avoir un travail bien fait pour contrôler. Comment construire? Si aux fondations, c'est que même, vous prenez Lomé même, le lotissement des terrains est mal fait. Les constructions aussi sont mal faites. Et puis, il n'y avait même pas de caniveau lorsqu'on a construit même la ville de Lomé vers le sud ici. C'est aujourd'hui qu'on est en train de mettre les choses, le transformer, parce que quand on construit, il faut. Fabrice disait tout à l'heure que lorsqu'on va appeler le 170, il y aura des difficultés pour atteindre les zones vulnérables là. Même les sapeurs-pompiers ont des difficultés pour aller dans ces zones. Pourquoi comment les gens là se débrouillent pour aller? Pourquoi ils sont allés construire là-bas alors qu'ils savent que c'est des zones inondables?
Mais c'est aussi le manque de moyens.
Tu ne peux pas dire que tu manques de moyens et tu vas te créer des problèmes.
Des problèmes plus tard, je suis parfaitement d'accord. Alors, nous allons quitter le sujet, puisqu'il y a notre temps aussi.
Oui, il faut quitter le sujet. Mais je voulais juste faire rappeler qu'il y a des cas, il y a eu des bus à Lomé. Il y a eu des bus à Lomé, à Nyekonakpo, il y a des bus lorsque, après chaque pluie, vous verrez que ça se déverse au niveau donc, de la mer. Mais on n'a pas su pérenniser cela et multiplier les exemples. Sinon, vous voyez que après quelques minutes, ça passe par ces bus là et puis ça se déverse au niveau donc de la mer. Si on avait conçu cela et pérennisé, multiplié ces exemples là sur toute l'étendue du territoire national, un décès vers les lagunes et tout ça, je crois que on aura moins de
d'accord,
problèmes.
Merci beaucoup, Sylvestre. Alors, Fabrice, c'est vrai que nous ne pouvons pas faire ce débat d'aujourd'hui sans s'intéresser à la politique parce que nous connaissons le dernier développement, même d'ailleurs, de l'actualité politique chez nous au Togo avec ce refus de l'ANC et aussi des FDR de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Nous avons tous ensemble appris l'information. Alors, pour vous, à votre niveau, en tant que journaliste, comment vous appréciez même cette décision des deux parties?
C'est vrai que j'ai été un peu surpris par cette décision parce que je me dis que, quand on va à une élection, on s'attend à tout, soit on peut perdre ou gagner, quelle que soit la situation, on s'adapte. Mais je crois que c'est un choix politique et je me dis que, en fait, ce qui est souhaité derrière, ce qui se cache peut-être derrière cette décision de ne pas siéger, c'est donner l'impression que nous avons un parlement unicolore où il n'y a qu'un seul parti politique. Mais maintenant, il faut chercher à savoir quelles peuvent être les conséquences de ce choix politique-là à l'avenir.
Tout à fait.
Parce que quand vous observez un peu l'histoire sociopolitique de notre pays, et très souvent, toutes ces décisions-là de l'opposition a toujours payé. Et parfois, ça rentre même dans une certaine... s'il n'y a pas de logique par la suite, je m'explique. Vous savez, une fois, on avait reçu ici, j'avais taquiné un peu à Diamagboua une émission ici, où à l'époque, on venait de proclamer les résultats de la présidentielle de 2020, où Agbeyome disait qu'il avait un gouvernement légitime et tout cela. Et à Diamagbo qui disait que nous sommes allés demander la permission, et je lui demandais, c'est auprès de quel ministre? Et bon, c'était une manière de la taquiner. C'est-à-dire, quand vous prenez une position politique aujourd'hui, il faut calculer les conséquences sur demain. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que, quand j'ai lu le document de AP Vent FDR, alors, ils disent que d'abord, ils étaient contre la Constitution, qui est déjà en vigueur, et que le fait d'aller siéger, ça voudrait dire qu'ils vont contribuer à la mise en application de cette constitution qu'ils ont rejetée. Alors, conséquence, vous ne siégez pas au Parlement. Qu'en est-il des régionaux? Et demain, les élections qui seront organisées, c'est sur la barre de quelle constitution? Ce sera la même constitution. Vous irez ou pas? Or, on sait comment ça se passe. Après, on va dire, cette fois-ci, bon, oui, bon, nous n'allons plus, nous allons aller. C'est là où je dis, je sais pas, il faut faire les calculs en tenant compte du futur. Quand vous refusez une situation aujourd'hui, c'est pour cela que quand vous prenez un parti comme le PNP, ils sont restés droits dans leur botte. Pour eux, pas d'élection. Pour eux, le problème du Togo, c'est pas l'élection. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont allés à aucune élection. Ils sont restés droits dans leur botte. Vous prenez un certain parti de Dima Oré qui dit, lui, c'est une transition ou rien. Jusqu'aujourd'hui, il n'est allé à aucune élection. Mais quand ça fait du zigzag, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là, on dit non, on n'a pas assez de députés, l'autre a tout pris, qu'on ne veut pas de cette constitution, aller veut dire qu'on est contribué à mettre sur pied. Alors que vous savez que dans un futur pas très lointain, l'année prochaine, nous aurons les élections régionales. C'est sur la base de cette constitution que ça sera organisé. Vous ferez quoi? Vous ferez quoi? C'est là où je me pose des questions. Mais je comprends le choix et ce qui est recherché derrière.
D'accord.
Mais je me demande si à l'avenir, on peut assumer ce choix-là.
D'accord. Déjà, SL, est-ce que vous arrivez à comprendre aussi ce choix?
Non, j'avoue.
Vous ne comprenez pas.
Il faut
pas.
Être sincèrement. Depuis la dernière fois, j'ai essayé de retrouver la logique dans tout, mais c'est un peu complexe pour moi. Et je fais un petit retour dans le passé où, après toutes les leçons tirées hein, des boycotts de l'opposition aux élections, Jean-Pierre Fabre déclarait devant la presse qu'ils ne boycotteront plus jamais une élection au Togo. Donc, si on part de ce postulat, ça veut dire qu'on est prêt à assumer les résultats qui découlent naturellement de ces élections. Quand on y participe, c'est pour respecter le verdict dans les urnes et tout. Mais là, quand on fait cette déclaration et qu'on revient, vous participez à une élection, vous mobilisez les énergies, toutes les forces pour y aller. On va même jusqu'à solliciter les populations, faire des levées de fonds auprès des populations. Je ne sais pas si ça a été effectif, mais l'appel avait été lancé pour nous aider à aller aux élections. On finit ça. Les populations sont allées voter pour vous, vous obtenez un siège à l'Assemblée et vous revenez vers cette population pour dire « bon, nous ne siégeons pas ». Mais finalement, il faut un peu de respect à ces militants quand même. Et dans quelles conditions même la première information a été donnée? Fallait d'abord expliquer les fondements de votre décision aux populations à la base, à vos militants, pour qu'ils comprennent. C'est au détour d'une émission comme ça, l'information tombe. On a d'abord considéré que c'était la position d'un individu au sein du parti, avant que le parti même ne confirme ça plus tard.
Avec une conférence de presse.
Avec une conférence de presse. Maintenant, on se demande, oui, si on analyse un peu les arguments avancés par les uns et les autres, par exemple, Maître Apevon, quand on parle de constitution, qu'en est-il des régionales, effectivement? Est-ce qu'ils vont occuper les sièges des régionales? Nous avons une élection locale dans moins d'un an.
Mais à leur niveau, ils ont été clairs pour les conseillers régionaux aussi.
Ils ne vont pas siéger. Qu'en est-il des élections à venir? C'est la même constitution qui va régenter le pays. C'est déjà en vigueur. Qu'en sera-t-il? Donc, ça veut dire qu'ils seront dans un boycott à vie. Puisque je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas si la constitution va être modifiée encore les années à venir. Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est la constitution qui est en vigueur. Est-ce qu'on est parti pour un boycott à vie des élections de la part de ces deux partis-là? Comment est-ce qu'on fait rendre les comptes aux populations qui ont porté leur choix sur vous? Allez-y nous représenter et faites-nous un compte-rendu par rapport à ce qui se passe. Quand on ne siège pas, on fait comment? Maintenant, j'essaie de me poser des questions. Qu'est-ce qui peut motiver? Ça reste mon analyse personnelle. Hein. Je me rappelle d'une émission de Jean-Pierre Fabre sur une radio internationale et il a été repris sur une radio locale. La question a été posée. Je crois qu'il y a une guéguerre entre les deux, la DMP et puis l'ANC. Le jour-là, c'est vrai qu'il y a des années, ça doit remonter en 2018. Mais Jean-Pierre Fabre parlait tellement avec passion et rancœur que je me dis, est-ce que c'est une manière d'éviter cette coalition-là qui s'annonce en fait au Parlement? il ne faut pas qu'on se le cache.
C'est une question que vous posez.
C'est une question que je pose par rapport à ce qui avait été dit. Il allait jusqu'à invoquer à son âme Patrick Lanson, qu'il a bien dit devant le cercueil de Patrick Lanson, qu'ils ont pardonné, mais ils n'oublieront jamais que si les gens vous blessent profondément et qu'ils ne font pas le pas, c'est un peu difficile de dire que nous faisons une coalition dans ces conditions. Aujourd'hui, nous avons 5 partis de l'opposition qui siègent à l'Assemblée.
Pas 5.
Nous avons 5 sièges pour l'opposition. Excusez-moi. Nous avons 5 sièges pour l'opposition à l'Assemblée.
5 pour la 5e République.
5 pour la 5e République. D'après le règlement intérieur qui a été voté la fois passée, qui doit être quand même amendé par la Cour constitutionnelle, je crois qu'ils doivent être 4 pour former un groupe parlementaire.
Mais pour le moment, c'est 3.
Pour le moment, voilà. Dans ces conditions, comment est-ce que l'opposition compte faire le jeu politique jusqu'aux élections prochaines, si elle va y participer ou non? Il y a beaucoup de questions qui se posent.
Tout à fait.
On ne se retrouve pas, sincèrement.
D'accord. Alors, Sylvestre, déjà, on est, quand cette question de la nouvelle constitution s'est posée, automatiquement, il y a ces partis politiques qui ont été contre alors la nouvelle constitution. Pour eux, c'est que, allez, quand ils iront à l'Assemblée nationale, quand ils vont siéger à l'Assemblée nationale, c'est comme s'ils cautionnent alors cette constitution. Est-ce qu'il n'y a pas la logique?
Non, écoutez, c'est comme s'ils cautionnent
cette nouvelle constitution, puisque l'application de cette constitution se fait maintenant à l'Assemblée nationale. Avec même d'ailleurs le...
Oui, mais en amont, on a déjà, on connaît, si vous connaissiez un peu le pays, plus rien normalement ne devait vous surprendre. Avant même les élections, déjà, le 29 mars, il y avait déjà une première adoption donc de la Constitution.
Oui, tout à fait.
Avant qu'on ne puisse demander à ce qu'on puisse une deuxième lecture. Lorsque vous voyez tout cela, vous devez quand même, en tant que politique avisée, connaissant un peu les réalités du pays, vous devez savoir que, quel que soit peut-être alpha ou bêta, cette Constitution sera votée. La preuve, si vous voyez la dynamique dans laquelle donc le pouvoir se trouvait à l'époque, vous devez anticiper en sachant que oui, quel qu'en soit le cas, cette constitution sera promulguée. Maintenant, il faut s'adapter à la donne. Si vous devez déjà refuser en amont cette constitution, normalement, vous devez refuser également de participer aux élections.
C'est ça la logique.
Voyez-vous. Maintenant, on y est. La constitution est votée et tout. Et maintenant, certains pensent donc d'immoralité, pensent de bazar, de désordre institutionnel et tout. Et peut-être que c'est la position de FDR qui est un peu logique parce que eux, ils refusent et l'Assemblée nationale. Vous venez donc de donner l'information, je ne l'ai pas. Ils refusent et l'Assemblée nationale et les conseillers régionaux.
Tout à fait.
Au moins, ils sont logiques parce que nous avons eu un double scrutin. Donc, quand on parle de désordre, on parle de bazar, on parle d'immoralité, ça concerne les deux scrutins. Donc, on ne peut pas refuser un et accepter l'autre. Maintenant, eux, ils ont refusé les deux. Au moins, ils sont dans leur logique. Mais au niveau de l'ANC, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont refusé les conseillers régionaux.
Non, pour l'instant, justement, nous avons posé la question à Jean-Pierre Fabre tout dernièrement, où est que déjà le parti va se réunir, le bureau du parti va se réunir.
Il
n'y
a pas de réunion.
S'il y a une réunion, ça va de soi. Pourquoi
moi je l'ai dit? Parce que si on dit que les élections... en réalité, l'ANC dit que les élections ont été fraudées et tout, en parlant donc d'immoralité, en parlant donc de désordre institutionnel et tout. Donc, nous avons eu un scrutin, un double scrutin.
Le même jour,
donc,
dans
l'immoralité concerne les deux. Donc, si on refuse l'un, normalement, on doit refuser l'autre. Voyez-vous, on ne peut pas accepter un et refuser l'autre. C'est là où je me retrouve pas. Mais tout compte fait, c'est un choix politique donc du parti. Maintenant, demain, qu'est-ce que cela va donner demain? C'est là où on verra, puisque, bon, nos politiques aussi ont quand même ce péché mignon-là de regretter un peu, parce qu'ils parlent d'erreur politique. En 2018, je vous dis, les gens étaient d'accord. Quand on quittait donc Alpha Condé, on revenait à Lomé, eux tous étaient d'accord de participer aux élections de 2018. On revient à Lomé, patatras, la lune a beaucoup, tout a changé, on a voté, et le non l'a emporté. Mais après, quelques années plus tard, beaucoup ont dit, même l'ANC, même au niveau de la DMK et tout, beaucoup ont regretté de n'avoir pas participé aux élections de 2018.
D'accord.
Est-ce que demain, on va nous dire, bon, on regrette de ne pas...
La question divise même le parti.
Ils ont dit qu'il y a des frustrations au niveau du parti aussi. Bon, on verra.
Voilà, justement, la question qui se pose aujourd'hui, quelles seront les conséquences alors de ce choix politique, alors sur la vie même d'ailleurs politique du pays, et aussi, notamment, précisément, sur la vie de ces partis politiques?
Tu sais, les gens disent qu'ils ont pris cette décision parce qu'ils ne veulent pas faire donner l'impression qu'ils vont travailler pour quelqu'un, ils vont faire les yeux doux à certaines personnes. Or, aujourd'hui, ceux-là qui sont en train de partir, là, on va les applaudir. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut boycotter les sièges. Et ils vont les applaudir. Mais les conséquences, ils ne les ont pas analysées. Il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser à leur niveau. Les gens n'ont qu'à commencer par voir surtout leur cursus politique sur les élections, à partir des élections. On était chef de file de l'opposition. Après, on a eu à la présidentielle 4%. Et par après, aujourd'hui, on a 1%. Compte tenu de certaines situations, vous dites que vous ne participez pas parce que il y a eu la constitution qui va entrer en vigueur, qui a entré en vigueur pour la 5e République. Et alors, sous cette constitution-là, vous l'avez vu et vous êtes allé aux élections. Qu'est-ce que vous allez dire à vos militants qui vous ont voté? C'est une trahison. Ceux-là qui ont décidé de participer, Adjamagbo dit, quelle que soit la situation, nous allons participer et nous allons continuer le combat là-bas. Ce ne serait pas facile.
Et elle a si bien dit quand même qu'ils rendront compte, c'est toujours.
Qu'ils rendront compte de ce qui se passe. Peuple, oui. C'est que vous allez avoir, vous allez siéger et vous avez vos yeux ou vos oreilles. Vous êtes les représentants du peuple et non les représentants du parti. Lorsqu'on est élu comme député, on est représentant de la nation. On ne fait jamais quelque chose comme ça. C'est que le rôle du député est là. C'est la légifération. Il légifère les lois. Et après, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Il fait aussi des propositions de loi. Mais est-ce que le fait de dire que je me retire, vous ne laissez pas la place à l'autre? Vous allez donner le pouvoir à l'autre? Aujourd'hui, les conséquences, c'est que aujourd'hui, nous avons 113 députés. Si les deux quittent, il va rester 111. Mais ça ne va pas rester comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait des déclarations. Il faudrait qu'ils saisissent l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va saisir la Cour constitutionnelle pour constater et donner son avis. Et après, on va reprendre les deux comptes de ceux-là qui suivent. C'est-à-dire les
types. Au suivant.
Au suivant. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. On a vu ça ici. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, c'est comme ça. Les 113 sièges doivent être occupés. Si d'autres ne veulent pas, il y a certains qui sont là en attente qui vont les prendre. Il n'y aura même pas à organiser une autre élection. C'est qu'il y a les suivants. C'est comme une liste d'attente qui est là. La Cour constitutionnelle va décider, donner son avis. Après que les deux parties aient saisi l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale va saisir aussi la Cour constitutionnelle pour dire, voilà, nous avons fait le constat qu'il n'y a pas ça. On reprend, c'est nous qui avons proclamé les résultats finaux. Vous n'êtes plus député, donc on va donner ça à quelqu'un d'autre.
D'accord. C'est comme ça la okay. Oui, Fabrice, oui. C'est vrai que j'aimerais qu'on quitte le sujet.
Oui, il faut dire que sur la participation aux élections, bon, là-bas, il y avait quand même une logique. Hein, parce qu'en fait, cette élection se comportait un peu comme un référendum. Ils ne voulaient pas de la nouvelle constitution. Elle n'était pas encore promulguée. Même si elle était promulguée, on peut se dire qu'à cette élection, si l'opposition avait remporté, à supposer que c'est l'opposition qui avait les 113 députés, ça voudrait dire qu'eux aussi feront ce qu'ils veulent de la Constitution. Et donc, pour moi, en allant à cette élection, il y avait quand même ce rêve, peut-être, de sanctionner, unir dans les urnes pour le fait qu'ils ont choisi de modifier la constitution et d'aller à une autre république. Et donc maintenant qu'ils sont allés et finalement bon, unir n'a pas été sanctionné. Bon, moi je crois que c'est pour cela que je dis le choix politique, politiquement ça s'explique. On veut, aux yeux du monde, je crois que ça ne plaît même pas à unir qu'on dise que nous sommes en démocratie, en multipartisme et que c'est un seul parti qui se retrouve au Parlement. Vu de l'extérieur, les gens vont trouver ça un peu bizarre. Et même avant cette élection, il y avait des confidences où on dit qu'on augmentait le nombre pour que l'opposition ait un peu plus de sièges au Parlement. Mais finalement, on a augmenté. Mais bon...
Il a augmenté aussi.
Il a augmenté. Ok, d'accord. Merci.
Mais ce qui... Je crois que... C'est cela qu'on demande à l'opposition donc de réfléchir ensemble. Hein? Si les cinq quitter l'Assemblée nationale.
Est-ce que c'est finalement possible hein, avec cette question
normalement, si on, les deux qui quittent aujourd'hui, s'ils avaient quand même pu convaincre les trois autres à quitter et qu'on a que les 108 aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je crois que ça aura un impact beaucoup plus fort. Une incidence plus forte sur le pouvoir togolais. Mais si les deux la quittent et qu'il reste trois, bon, en réalité,
il y a une opposition. Même si elle a fait,
il y a une opposition. La preuve, en 2018, on nous a dit qu'il y avait de l'opposition. En 2018, même si c'était pas ça.
Estelle, c'est vrai, je voudrais qu'on finisse vraiment ce sujet, mais qu'on dise quelque chose sur ce sommet Corée-Afrique, parce qu'on sait que c'est depuis hier quand même que cette rencontre ou ce sommet a commencé en Corée du Sud, bien sûr. Nous avons connu des sommets surtout avec le continent africain. Je veux bien parler alors des sommets Afrique-Russie, sommet Afrique-France, sommet Afrique-Italie. Finalement, l'Afrique, c'est un continent très, une terre très fertile quand même, où des pays vont vers même d'ailleurs ce continent pour faire un sommet.
C'est plutôt l'Afrique qui va vers les pays. C'est l'Afrique qui va vers les pays chercher de quoi se faire exploiter, j'allais dire, puisque faut pas qu'on se leurre. C'est des sommets gagnants-gagnants. Eux, ils ne vont pas offrir quand même tout ce qu'ils ont, ils n'ont rien à attendre en retour. Mais il y a eu de bonnes déclarations. Le chef de l'État a fait une participation active. Qui trouve que l'État doit être le moteur même de développement du secteur privé et qu'on ne doit pas vivre en vase clos par rapport à la situation géographique de notre pays et tout. Ça reste de très bonnes déclarations. On attend vivement les retombées, surtout sur le plan national, le plan local et sur les populations. Mais au-delà de tout, il faut que nos populations ou nos États réfléchissent. Pourquoi ? Pas les prochaines fois, qu'on trouve peut-être les pays asiatiques ou tout le continent asiatique ou tout le continent européen venir aussi au Togo faire un sommet. Puisque c'est un seul pays qui
gêne
toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Oui. Pourquoi ça ne peut pas être le contraire?
Tout à fait.
Alors, oui, c'est la question que je me pose.
C'est cette question que moi je me pose. Justement.
Non, il ne reste que l'île de Barbade pour appeler donc l'Afrique pour organiser un sommet sur l'île.
Peut-être la Grèce.
Oui. Parce que.
Taïwan.
Taïwan, si vous voulez. Non, sinon, je crois que ça fait des années que l'Afrique court pour ses sommets et tout ça. Mais bon, ça n'a véritablement rien donné. On fait des discours et tout ça. Mais après, bon, les retombées, bon, il faut aussi chercher des loups pour pouvoir les retomber. Mais ça se perpétue. Ça se perpétue. Donc, je ne sais pas. Bon. Je sais pas, il y a encore peut-être l'Irak qui sortait presque donc d'une guerre. Bientôt il y aura un sommet Irak-Afrique. Et puis les autres, ils seront là quoi, ils seront là bien.
Israël. Non, en fait moi je vais y aller par cette métaphore. L'Afrique c'est un peu comme cette jeune fille qui a 18-20 ans, qui est très belle, qui a tous les atouts, que tout le monde courtise. Vous voyez, tout le monde fait la cour aujourd'hui à l'Afrique. Et effectivement, ce n'est pas ex nihilo.
C'est le continent de demain.
C'est le continent de demain.
Mais ça se comprend aussi.
Nous avons les populations les plus jeunes. Nous avons un sous-sol encore riche. Nous avons des terres vierges. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc tout le monde.
Et beaucoup de choses à exploiter.
À exploiter. Donc, mais maintenant, il revient à l'Afrique de ne pas jouer à la jeune fille très belle et naïve. Qui finira à un moment donné, à un certain âge, à dire « Ah, je me suis fait avoir par plusieurs partenaires, maintenant je me retrouve sans rien. »
Mais est-ce que ça ne se sent pas déjà?
Non, c'est pour cela, quand vous voyez, aujourd'hui quand même nous avons un type de chef d'État, quand même qui cherche à savoir un peu ce qu'il gagne. Et quand vous voyez dans les discours, moi j'ai écouté un extrait du discours du chef de l'État, il a un peu vanté, chacun vantait un peu, les atouts de son pays et tout cela.
Mais ce ne sont pas que des déclarations.
Non, c'est pas des déclarations. C'est pour cela que je dis, vous savez, avant, aujourd'hui, ce multi-partenariat dans lequel l'Afrique s'est lancée, ça entraîne aussi une certaine concurrence au niveau, des prétendants.
Ouais.
Puisque avant, c'était un seul partenaire qui vous dicte ce qu'il veut. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression de vous la jouer vis-à-vis de plusieurs partenaires, vous avez quand même certaines... Parce que si vous...
Mais si vous avez aussi beaucoup de partenaires, à la fin, c'est vous qui perdez.
Oui, on ne va pas...
En fait, quand on a plusieurs partenaires, il y a quand même une possibilité d'être exigeant. C'est si vous ne voulez pas, quelqu'un d'autre veut. Vous voyez?
Ok, merci beaucoup, Fabrice. Alors, c'est vrai que, allez, il y a des sommets, mais même au microscope, on ne voit rien.
Oui, effectivement, microscope, on ne voit pas. Parce que l'Afrique est comme une source où chacun vient tirer sa part. Même les petits pays européens et américains viennent tirer leur part. Parce que nous avons des ressources naturelles et que nous n'avons pas de moyens pour les exploiter. L'autre voit, il nous baigne, il dit, trouve, bon, je vais les inviter, nous allons discuter, je vais en profiter de ce qu'ils
ont. Et c'est comme ça, tout un continent.
Et puis maintenant, si c'est qu'on revenait là, on nous fait le point de ce qu'on a pu avoir comme contrat, comme ça, ça pouvait nous donner quelque chose. Parce qu'on va, on discute, on revient, on s'éteint. Et ça s'arrête là. On devait rendre compte au peuple.
Mais le chef de l'État était en France il y a quelques jours. Après, on nous a promis des lampadaires.
On va revenir sur le sujet, puisque notre temps est déjà avancé, s'il vous plaît. Alors, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 115. Premier auditeur, allô.
Allô, oui, bonjour Pascal.
Oui, bonjour Didier, comment vous allez?
Bonjour Monsieur Abbas, bonjour Fabrice, bonjour Estelle. Bon, je voulais aller venir qui vous plaît. Monsieur Pascal.
Oui, Didier.
Depuis un certain temps, moi, j'ai remarqué qu'il y a mon frère Abbas et puis Sam Djobon et répondait à mes questions. Sinon, quand sur le pas de Monsieur Fabrice, qui, même qu'il est dur avec moi, c'est parce qu'il m'aime, je l'aime bien aussi. Parce que c'est quand Monsieur Abbas et puis Sam m'explique que je comprends. Je pensais même aller voir mon ami Tchagnon pour qu'il intervienne, pour qu'il puisse me répondre à mes questions. Bon, ceci étant dit.
Oui.
Monsieur Fabrice, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement ferme les yeux sur les incivilités parce que vous allez les critiquer. Non. Le gouvernement essaie de fermer les yeux parce que tout ferme les yeux, se laisser aller, c'est pour compenser son illégitimité. La preuve, le dégagement des voies publiques qu'il avait annoncé avec grand renfort de publicité et populisme. Où en sommes-nous? Allô?
Oui, je vous...
Oui, ceci étant dit, pour revenir sur le cas de l'Assemblée et les députés là, si les députés n'étaient pas partis, ils étaient partis à l'Assemblée, c'est monsieur Sam, Fabrice, Estelle, qui sont les premiers ici à nous dire, mais quand vous êtes, quand vous avez triché, pourquoi vous êtes parti à l'Assemblée? Quand vous êtes, vous n'êtes pas d'accord avec cette condition, pourquoi vous êtes parti? Que c'est à cause de l'argent que vous êtes parti, à cause d'un million à cause vous êtes parti. La preuve, regardez, ce qui je comprends jusqu'à présent, les 30 millions qu'on avait dit que les gens ont pris. Regardez, prenez l'exemple là. 30 millions divisé par 14 personnes, ça fait combien? Ça fait 2 millions. Revenez à la base, ils vont diviser combien? Le peuple, comme le plus facilement manipulable, là, on essaie de nous divertir avec ces trucs-là. Si l'ANC, monsieur, vous êtes journaliste, monsieur Fabrice et puis Sam Abbas, vous savez combien de fois les réunions sur réunions que l'ANC a fait avant de valider ce choix du bureau national, avant de valider de parler à l'Assemblée, ils n'ont pas décidé seulement. Moi, je pense que, en tant qu'analyste, je pense que le gain que l'ANC allait tirer s'il ne part pas à l'Assemblée, c'est plus important que ce qu'il allait faire s'il allait à l'Assemblée. Parce qu'il avait les tapages médiatiques de Sam Djobon, Abbas, Fabrice, Estelle. Les gens ont pensé que c'est à cause de l'argent qu'ils sont partis. Je vous remercie.
Alors, merci pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Abdel.
Abdel.
Oui.
Mais ça fait longtemps.
Hier, j'ai tenté d'entrer en vain.
D'accord. Allez-y, vous êtes maintenant en ligne.
Vous savez, je pensais mettre à Pévon plus stratège politiquement que ça. Mais j'ai le regret de l'annoncer qu'il vient de s'enterrer politiquement. L'ANC également. Vous savez, le jeu politique, je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Vous avez participé à un examen, à un concours, vous en tirez toutes les conséquences. Vous allez quand même représenter ceux qui vous ont demandé, qui vous ont élu, hein, même s'ils ne sont pas nombreux, vous allez quand même le représenter. Votre présence à l'Assemblée nationale sera utile. Elle va les refondre. Bon, demain, s'il y a élection, ils iront encore vous voter pour que vous n'allez pas à l'Assemblée. Je pense que l'opposition vient de s'enterrer définitivement ici au Togo. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Abdel, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au cours de la presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom, votre radio fait un peu de bruit.
Moi, je voulais intervenir sur l'urbanisation, je voulais parler les gens. Bon, l'État a des réserves. Ces réserves ont été occupées. Qu'est-ce que l'État dit? Maintenant, vous avez parlé de ce que les mairies leur permis. Les maires perçoivent des taxes sur les voies publiques que quand moi j'ai interrogé, elle paie. Elle m'a montré le ticket. On a dit qu'encombrement de la voie publique. Encombrement de la voie publique, et vous prenez de l'argent. Ça, c'est bien ce que l'État fait. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup de choses. Les gens, quand vous prenez le grand contournement, sincèrement, la voie là, c'est-à-dire qu'à Lomé, je ne sais pas si les maires là, c'est allé prendre le ticket et écrire qu'encombrement, c'est ça qui les arrange. Il faut dégager les gens, installer les gens dans les réserves. Vous voyez, ça crée, l'autre fois même, il y a un habitant qui a dérapé, il a tué une personne, comme ça, qui est au bord de la belle étape, la mairie prend l'argent, et dit que c'est encombrement de la voie, et la vie de cette personne. Vous voyez, sincèrement, il faut que les maires fassent leur travail. Ils n'ont qu'à faire dire la vérité. Avocat de nous, les gens, ils n'ont qu'à faire comme ça. Il faut loger les gens dans les choses. On laisse les gens aller payer les terrains dans l'eau. On tire le courant, on amène. On essaie de faire les choses. Après tout, l'eau dérange les gens. Mais il faut refuser carrément. Il faut que l'État, comme vous l'avez dit, refuse que les gens s'installent dans cette zone. Et puis c'est fini.
D'accord.
L'État, l'argent n'a pas pour faire autre chose. Pardon, que l'État passe un effort pour interdire les gens d'aller acheter dans les zones inondables. L'État même prend les arbres pour bien mettre les grands services là, et ils ont les moyens, les gros moyens, ils peuvent le faire.
D'accord. Bon. Merci beaucoup, Makema, pour votre intervention. 22 21 314 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour, Canal FM.
Oui, c'est Nestor.
C'est Nestor depuis Agoué.
Depuis Agoué. Allez-y, Nestor.
Oui. Merci pour les explications en ce qui concerne l'obtention du casier judiciaire. En ce qui concerne les inondations, au Ghana, par exemple, les caniveaux sont tellement grands que parfois les bœufs tombent dedans pendant les pluies. Pourquoi cela ne s'est pas fait au Togo? Sur le plan politique, je veux m'inscrire en faux en ce qui concerne les incohérences de l'opposition togolaise. Il n'y a aucune incohérence. Le problème, c'est que comme l'a dit Marie-Rosé Bouléa sur France 24, certaines personnes ont décidé que le pouvoir au Togo est une propriété personnelle. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mercredi 22 21 34.
Allô? Allô?
Oui.
Oui. Bonjour, Fabrice. Bonjour. C'est Didier.
C'est Didier qui revient?
Oui. J'ai oublié une question de poser à monsieur Fabrice là. Comme lui, m'explique là.
Oui, allez-y.
En tant que journaliste, grand intellectuel, comment est-ce qu'il pourrait analyser, nous, m'expliquer cette victoire du UNI? Regardez l'ANC en Afrique du Sud. Avec 30 ans de pouvoir seulement, ce grand parti libérateur du peuple là a fait une chute. Mais alors que ici, là, avec tout ce que nous avons, lui-même vient nous dire corruption. Quel est l'avis clair hein? Et le UNI encore le voilà. Ibrahim m'explique en tant qu'enseignant, puis psychologiquement, puis sociologiquement, comment est-ce qu'ils pourront voir ça avant d'avoir la preuve même. Merci beaucoup.
D'accord, merci Didier. Michel, on peut recevoir un dernier auditeur, c'est ça? 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom?
Oui, c'est Kossi de Sabado.
Kossi de Sabado. Kossi, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit là, vous pouvez diminuer son volume.
D'accord. Ça va?
Ça va, allez-y.
D'accord. Je voudrais rebondir par rapport à la représentation de l'ANC, de FDR à l'Assemblée. Mes chers amis, je vous remercie tous, vous tous qui êtes là-bas sur le plateau et qui avez donné votre avis sur ce fait que l'ANC et le FDR refusent d'aller à l'Assemblée. Sincèrement, entre nous, est-ce que ces problèmes de représentation ou de problèmes de mascarade électorale qui pose problème? Je voudrais que vous en venez là. Le maître Apévon est un avocat. L'avocat, quand l'avocat détient une preuve, il ne recule pas. Vous avez dit que les gens n'ont qu'à faire des recours avec des preuves. L'avocat a relevé des preuves à faire la revendication avec une seule preuve tangible. Son logo ne se trouve pas sur le bulletin. Est-ce que la Cour constitutionnelle va rejeter ce moyen-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Pour cette seule raison, moi, Maître Apévon, je sais que Maître Apévon n'ira ni aujourd'hui, ni demain à cette assemblée-là. C'est là où notre Cour constitutionnelle avait cautionné tous les soupçons de vol, de mascarade, de bourrage. Là, la Cour constitutionnelle ne devait pas rejeter ce moyen-là. Parce qu'il y a la preuve qui est tangible et palpable. Maintenant, si on vient à l'ANC, l'ANC qui était grand parti, l'ANC est plus âgée que la DMP. Est-ce que vous êtes d'accord, vous convenez avec l'ANC qu'on aille à une élection où la BNP qui est née hier et l'ANC est la même voix? Ça veut dire que quelque chose s'est passé. C'est là-bas que vous devez chercher à savoir.
D'accord.
Nous devons chercher à savoir.
Ok, merci beaucoup, M. Kossi, pour votre intervention. Alors, nous allons clôturer cette partie alors des auditeurs sur M. Kossi qui vient de réagir. Vous avez écouté les uns les autres, et nous revenons en plateau, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici. Fabrice, vous avez été interpellé par Didier.
Oui, de lui expliquer pourquoi il n'ira gagner. Non, c'est simple. Bon, aussi longtemps que des gens comme Didier qui font le show sur les médias, mais dans les urnes vont voter Unir ne peut que gagner. C'est un peu ça la situation des Togolais. Les gens aiment bien faire du bruit, mais qui pour qui il a voté, peut-être qu'à la prochaine émission il me le dira. Peut-être si vous fuyez, Didier même a voté pour Unir.
Mais vous n'avez pas les preuves quand même.
Non, en fait, c'est pour expliquer quoi. Vous avez vu, en fait, parfois, combien de personnes appellent dans cette émission, quand vous prenez toute la population togolaise. Il y a des gens qui sont dans leur coin, ils savent ce qu'ils font. Sur les réseaux sociaux, nous sommes les mêmes, avec plusieurs noms. Et parfois, on pense que, bon, il y a un parti qui pensait qu'il est populaire parce qu'il avait... Il était bien vu sur le net, mais lui aussi, il a récolté zéro. Et donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné, la politique, c'est carrément autre chose. Et moi, je l'ai dit, j'ai été surpris. Je savais que Unir allait avoir la majorité, mais je ne m'attendais pas à cette majorité-là. Et j'ai dit ici que peut-être que si Unir avait décidé de faire les fraudes en disant « Bon, je vais donner à celui-ci pour qu'on ne dise pas que j'ai trop pris », l'opposition aurait eu plus de voix. C'est cette volonté de laisser tout. Finalement, eux-mêmes, je suis sûr qu'ils ne sont pas, comme je l'ai dit ici, c'est-à-dire dans un pays démocratique multipartite où il y a le multipartisme, qu'on dise qu'un seul parti se retrouve au Parlement, vu de l'extérieur, ce n'est pas une bonne chose.
Tout à fait.
Ce n'est pas une bonne chose. Donc, Unir même, ça ne l'arrange pas. Unir qui est au pouvoir, ça ne l'arrange pas vraiment qu'on se retrouve dans une situation. Mais bon, c'est ce qui est sorti des urnes. Maintenant, ce que nous disons par rapport à l'opposition, moi je ne dis pas que le fait de ne pas siéger, c'est pas une bonne décision. Mais je dis tout simplement, est-ce que cette logique sera respectée quand le FDR dit que aller siéger voudra dire qu'ils vont contribuer à mettre en œuvre l'application de la nouvelle constitution alors qu'ils n'en voulaient pas? C'est pour cela que je m'interroge. Et à l'avenir, puisque c'est ce parti qui a la majorité, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la posture des FDR l'année prochaine lorsqu'il sera question d'organiser l'aide locale? Est-ce qu'ils iront? S'ils n'y vont pas, là, ils sont dans une logique normale. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple du PNP. Le PNP à Tchadam m'a dit dès le premier jour que le problème du Togo, ce n'est pas les élections. Et lui, il avait sa méthode, il l'a essayé. Et il sait là où ça l'a amené. Maintenant, ceux qui décident d'aller aux élections, vous y allez, vous dites que bon, il y a une constitution, si vous siégez, ça voudrait dire que vous allez contribuer. Demain, quand sur la base de cette constitution, on va organiser des élections, si le FDR n'y va pas, là, je considère qu'ils sont logiques dans leur botte. Mais si demain, on dit à élection et FDR revient encore demander aux gens de voter pour nous, là, je vais dire que, monsieur l'avocat, il y a un problème.
D'accord. Oh, Estelle?
Oui, Didier a fait du Didier. Bon, on le lui concède. Didier fait du Didier, quoi. C'est un peu ça. Il est connu pour ça. Donc, si ça lui fait plaisir, bon, on s'estime heureux de lui faire plaisir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour l'opposition, nous ne faisons que des analyses, en fait, de logique. C'est le jeu politique. Nous ne faisons que... On va demander les voix à une population. La population vous accorde sa voix et vous dites, bon, nous n'en avons pas besoin. Est-ce que c'est logique? Mais prochainement, quand vous appellerez encore cette position pour voter pour vous, est-ce qu'elle peut répondre favorablement? Mais vous êtes des leaders politiques. C'est ce qu'on vous connaît. C'est juste des analyses que nous faisons. Mais les jours à venir nous diront... Les années prochaines nous diront par rapport à tout ce que nous faisons comme analyse aujourd'hui pour les corroborer et tirer les conclusions de chaque côté. D'accord. Maintenant, pour finir, je crois que le Togo a match ce soir.
Tout
à
fait.
Les éperviers jouent le Soudan du Sud, comptant pour la troisième journée des éliminatoires Coupe du Monde. C'est au stade de Kégué à 16h. C'est vrai que depuis un certain temps, c'est plus trop la grande ferveur, mais bon, on reste quand même patriote. On souhaite bonne chance à nos éperviers.
Et nous sommes tous ensemble.
Et pour
Non, écoutez, je crois que nous avons dit beaucoup de choses sur la politique. Moi, je voulais évoquer un sujet. Ça fait 17 ans, le 3 juin dernier, ça fait 17 ans qu'il y a eu donc le crash de Lundi. Et depuis là, les Indres sont là, ils ne sont pas indemnisés comme cela se doit. Déjà, il y a 4 ans, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux, réclamant un peu plus de 81 millions de francs CFA pour chaque victime. C'est vrai, ça ne remplace pas donc leur famille, mais depuis là, rien n'est fait. Donc, ils demandent donc... Oui, je crois que Maître Apuevo était sur ce dossier-là, mais je ne sais pas si, entre-temps, les lignes ont bougé. Donc, véritablement, qu'on puisse œuvrer à ce niveau-là, pour que les familles soient indemnisées, parce que Olive Vincent, qui est donc la journaliste, notre consoeur que nous avons perdue, aujourd'hui, je crois que sa fille devait avoir 17 ans, parce qu'elle était nourrice à l'époque. Voilà, quoi, 17 ans, et il faut penser à indemniser.
Donc, c'est très important. Oui, Abbas, rapidement.
Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce que Didier dit que je ne réponds pas. Je ne réponds pas à des militants qui s'agitent. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il suit ce que nous disons exactement avant d'interpeller les gens. Il n'a qu'à suivre tous les débats que nous faisons avant de vous interpeller.
D'accord.
Quant à ce qui est de... on a interdit que l'ANC pouvait aller ou pas. L'ANC, Estelle a voulu même soulever ça. Parce que l'ANC a... Le problème de l'ANC, c'est ailleurs. Ce n'est pas la constitution.
Et vous connaissez bien ce problème.
Le problème, c'est ailleurs.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, chers confrères. Nous sommes à la fin de cette émission. Estelle, vous avez fait bien quand même de nous rappeler que le Togo a un match déjà cet après-midi. Et c'est justement au stade alors de Kégué. Et justement, nous sommes tous ensemble invités à ce match, bien sûr. À ce match éliminatoire, bien sûr. Non, nous n'allons quand même pas pronostiquer là-dessus. Sylvestre, merci beaucoup à toi, Estelle. Merci. Fabrice, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Abbas, merci. Michel Tomega a assuré la mise en onde lors de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.